Vous écoutez France Culture. Hors champ. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Hors champ ce soir avec Vivica Génaud. Vous êtes cantatrice, mezzo-soprane, et dès que ce générique a commencé, vous avez fermé les yeux et vous dodelignez de la tête en écoutant la musique.
Ah, c'est génial. J'adore la musique, mais je trouve que ce morceau-là, c'est génial.
Et vous vous souvenez du premier morceau de musique que vous avez entendu quand vous étiez très jeune ?
Oui, j'ai toujours entendu de la musique parce que mon père était mélomane. Il avait une très, très grande collection de disques. Il aimait surtout les symphonies comme Mahler, Bruckner, les choses très légères comme ça. Et alors, quand je suis allée me coucher le soir, j'entendais toujours...
C'était en Alaska ?
Oui, c'était à Fairbanks, Alaska. Et oui, j'ai entendu toujours cette incroyable œuvre pour orchestre. Et j'ai toujours fermé les yeux en imaginant... des pays fantastiques, la magie. Ouais.
Et votre pays, il n'était pas fantastique ?
Oui, mais il était aussi assez froid, moins 40. Alors peut-être j'ai imaginé des pays un peu plus chauds.
Alors est-ce vrai qu'à l'âge de 13 ans, vous avez interprété My Fair Lady ?
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai.
Pourquoi ? Dans quelles circonstances ?
Moi, je ne sais pas. Alors, il y avait, on dit en anglais, un camp. Mais c'était une organisation pour les jeunes dans l'été pour faire la musique, et l'art, et danse et tout ça. Alors j'ai toujours pris part de ça, participé. Et chaque été, on faisait un musical. Alors j'ai entendu l'année avant que cette année-là, on aurait fait My Fair Lady. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais j'avais quelque chose dans moi qui a cliqué comme ça, qui a dit « Toi, tu dois faire Eliza, tu dois avoir la part d'Eliza. » Alors, l'année avant, on était en sabbatical avec mon père. Mon père était prof de biologie et chaque 7 ans, il prenait un an de voyage où il allait enseigner ou faire des recherches autre part. Et on était en Japon et on était en Texas. Et quand j'étais en Japon, j'ai trouvé le livret de My Fair Lady. C'était en anglais.
Alors, par hasard.
Oui, par hasard. Je crois que c'était dans un gare de train ou quelque chose. Non, c'était... Non, alors c'était de
Quel
le
mystère.
Destin. Oui, c'était de destin. Et alors, en train, en allant à Okinawa, que c'était 4-5 heures, j'ai mémorisé le premier acte. Et en retournant à Osaka, j'ai mémorisé le deuxième acte. Quand je suis rentrée en Alaska, j'étais complètement fondée dans le rôle de Eliza. J'étais Eliza, j'ai fait mon audition. Et ils m'ont pris, j'étais la plus jeune de toute la distribution. Les autres avaient 17 ans, moi j'avais 13. Et oui, c'était ma première expérience vraie dans le théâtre et je suis tombée amoureuse depuis le premier instant.
Ben, on va l'écouter, mais pas interprété par vous, mais interprété par Julie Andrews.
Oh, c'est pas mal, hein?
Bed, bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to sit it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night and still have begged for more.
Alors manifestement, vous n'avez pas du tout oublié le rôle parce que vous le connaissez encore par cœur.
Ah oui, non, ça fait part de mon être.
Mais maintenant, vous êtes devenue une star. Alors, ce qui est incroyable, c'est votre parcours parce que donc toute votre enfance et votre adolescence en Alaska. Donc à 13 ans, vous interprétez My Fair Lady, vous apprenez plusieurs instruments, vous apprenez le violon notamment.
Oui.
Vous apprenez la danse, vous apprenez aussi le choral, mais dans plusieurs registres, aussi
oui.
bien le jazz que le classique.
Oui, j'ai bien aimé le jazz aussi. Ouais.
Et vous ne vous destinez pas du tout à embrasser une carrière dans le chant. Pas du tout.
Non.
Vous étiez plutôt une intello et vous suiviez le chemin de votre père pour faire des recherches dans le domaine de la génétique.
Oui, c'est ça. Non, parce que pour nous, en Alaska, pour passer l'hiver, c'est vrai, ça dure 9 mois et on arrive bien à moins 40, moins 50. Pour sortir de la maison, il faut avoir une raison. Et alors pour nous, c'était l'art. Et je me souviens, ma mère me disait que mes parents se sont déménagés en Alaska dans 48. Et elle m'a dit qu'il y avait toujours quelques clubs ou quelque chose qui liait des morceaux, des pièces de théâtre, de Shakespeare ou des choses, avec chacun qui prenait la part de quelqu'un et léger. Et puis, ils ont changé de rôle. Mais c'était ça, l'art pour nous. C'était pour participer. Alors, c'était, pour moi, l'art était toujours un passe-temps et une raison pour sortir d'une maison, pour se rencontrer avec les autres. Et alors, c'était impensable. Pour moi, c'était impossible de penser de faire de cet passe-temps un métier.
Alors, d'ailleurs, vous avez fait des études de génétique.
Oui, j'ai fait 1 an et demi. Alors, ce n'est pas beaucoup, mais bon, c'était assez pour comprendre que je n'étais pas du tout fait pour ça. J'étais très, très triste parce qu'il me manquait la musique. C'était comme avoir mon bras droit coupé. J'étais complètement coupée. Et alors, quand j'ai senti que j'avais besoin physique de la musique, alors je me suis transférée à l'université de Bloomington, Indiana, où j'ai étudié avec Virginia Zeani et Nicola Rossi-Lemeni. J'ai complété mes études là et puis j'ai commencé à fréquenter l'Italie, aussi pour apprendre la langue, parce que c'était la langue qui me faillait. J'avais jamais parlé italien, mais c'était assez clair à ce point-là que ma répertoire serait été en italien surtout.
Mais comment avez-vous compris que vous alliez devenir une chanteuse et que vous allez délaisser les autres registres musicaux
alors...
et aller vers le classique?
Je pense que le moment plus important, le moment plus important de ma vie, c'était quand j'ai arrêté de jouer au violon parce que j'ai fait que du plaisir aux autres quand j'ai arrêté. J'ai joué pendant 9 ans, mais c'est jamais très bien. Hein. J'avais plein d'amis qui jouaient beaucoup mieux que moi.
Chantiez pas à ce moment-là?
Je chantais aussi, mais...
Pour vous, dans votre salle de bain?
Mais aussi dans le chœur. Et... Non, mais j'ai fait aussi... Quand j'ai chanté Eliza, par exemple, je jouais aussi à l'orchestre en même temps. Mais je suis arrivée...
Le violon?
Oui, au violon, oui. Mais je suis arrivée au moment où je devais décider entre calculus, mathématiques... et orchestre. Et évidemment, j'ai choisi mathématiques parce que c'était plus important, je croyais. Alors là, j'ai dû laisser tomber un peu le violon. Et depuis là, j'ai donné plus de temps à la danse et aussi à la voix.
Qu'est-ce qu'une voix? Et comment la connaissez-vous, votre propre voix? Et avez-vous plusieurs voix, Viveka Geno?
J'imagine que la voix, pour moi, c'est comme le sport pour les autres. Parce que ça me crée un besoin, comme je dis, un besoin physique de chanter. Et je ne sais pas, parce que je n'avais jamais peur de chanter pour les gens. Aussi, quand j'avais 5 ans, quand mon père avait des étudiants chez nous pour dîner, je me suis mis au centre et j'ai chanté une petite mélodie ou quelque chose pour eux. Aussi en Japon, j'ai toujours chanté pour les gens. Je ne sais pas, quand j'étais dans le chœur, dans l'école... élémentaire, non? On avait la prof de chœur qui disait, si vous parlez, genre, je vous faites chanter en solo devant les autres. Et moi, j'ai toujours pensé, et alors? Quel est le problème? Alors, pour moi, chanter, c'était toujours quelque chose de naturel. Et le violon, le piano, c'était quelque chose d'externel que ne partageait pas de moi, de mon esprit, de mon âme. Mais avec la voix, j'avais toujours l'impression de pouvoir, aussi quand je n'avais pas la technique. Ça, c'était frustrant. Quand j'ai commencé à étudier à Indiana, j'ai répété, j'ai chanté, mais je n'étais pas contente des résultats et je voulais m'exprimer mieux, mais je ne savais pas comment je pouvais faire. J'ai commencé à pleurer. Alors, pour me donner le temps de me reprendre, j'ai essayé des choses au piano. Puis, quand j'étais encore capable de chanter, j'ai chanté encore, et puis pleuré, piano, chanté, piano. Et je fais ça pendant 3 ans et demi. Et puis, finalement, quand j'ai appris un peu de technique, où j'ai commencé à avoir l'impression de me pouvoir exprimer comme je voulais, j'ai arrêté de pleurer et aussi de jouer au piano.
Mais on va vous écouter. On va vous écouter dans un extrait de Rinaldo de Handel.
Ah, c'est bien.
C'est impressionnant de vous voir, vous écouter, Vivica Gédon, parce que vous fermez les yeux,
oui.
Vous tapez des mains, vous murmurez à voix basse votre propre rôle que vous avez mémorisé. Et surtout, on a l'impression qu'avec votre tête, vous scandez chaque mesure.
Oui, non, mais c'est...
Comme si vous respiriez biologiquement la musique.
Mais c'est comme ça, pour moi, la musique, c'est difficile pour moi... entendre la musique classique en faisant d'autres choses. Moi, je dois me concentrer complètement 100% sur la musique quand je l'écoute. La musique pop, un peu moins, mais c'est vrai que je ne suis pas une qui réussit à travailler à l'ordinateur ou faire autre chose quand j'ai de la musique au fond, parce que non, ça prend toujours la première place.
Alors, pour apprendre ce rôle, il vous a fallu passer par quelques étapes. et notamment par un professeur, une professeure qui a été très importante pour vous, Madame Pinza.
Qui est toujours importante pour moi, oui. Elle est ma prof de chant depuis 22 ans maintenant. Ouais.
Et on ne trouve pas sa voix, on ne l'a pas pour toujours. On ne la trouve pas tout de suite. Est-ce que vous l'avez trouvée aujourd'hui, vous avez l'impression
D'avoir trouvé ma voix.
Oui.
Je suis encore en train de la trouver, je dois dire. Parce que je trouve qu'au début, j'ai chanté pour les autres. Aujourd'hui, je chante pour moi-même.
Et alors, même quand vous êtes sur la scène d'un opéra à travers le monde.
Maintenant, je chante pour moi maintenant.
Vous oubliez tout.
Oui. Oui, oui.
Vous êtes à l'intérieur de votre propre rôle.
Complètement, maintenant. Oui, j'ai aucun rapport pratiquement avec le public jusqu'à la fin de l'opéra.
Et vous êtes habitée.
Oui, oui, c'est exact, oui. Et je trouve que quand je suis dans ce boule-là, alors ça veut dire que je donne le mieux de moi, le meilleur.
Alors vous êtes habitée par quoi ? Par la beauté de la musique ? Par la qualité du personnage que vous incarnez. Et là, on va revenir à l'interprétation des castrats et de ces rôles très androgynes que vous savez merveilleusement interpréter. Ou est-ce que vous êtes à la recherche, justement, des possibilités de votre propre voix pour aller le plus loin possible ?
Non, je suis plutôt dans le personnage et en cherchant, oui, des couleurs, des moyens pour me mieux exprimer dans ce moment, dans cette émotion, dans le personnage même. Mais ça vient de facettes théâtrales plutôt que musicales, je trouve. Et c'est la continuation du monde que je me suis créé en écoutant les symphonies de mon père. C'est comme vous dites, je ferme les yeux. Et aussi, en étudiant, non, en répétant toute seule, sans chanter, je me ferme les yeux et je me vois sur scène. Je vois tous les mouvements, j'entends les sons, j'entends l'orchestre qui m'accompagne. Et je me crée tout ce monde autour de moi. Et j'y vive.
Et à partir de quel moment avez-vous commencé à pouvoir choisir votre propre répertoire ? Et pourquoi autant d'intérêt pour ces rôles autrefois interprétés par des castrats?
Ben ça, surtout parce qu'on a la possibilité de le faire aujourd'hui, que ce n'était pas possible dans les années 70, je dis, non.
Oui, c'est d'accord, mais c'est très difficile, parce que là, vous abordez un registre qui n'est pas très connu musicalement, où il faut inventer.
Oui, mais c'est le répertoire qui est plus bon pour ma voix. Je dois dire que chanter quelque chose comme l'air qu'on a entendu maintenant, c'est plus facile pour moi que chanter une air de Mozart ou de Haydn aussi. J'ai la facilité dans la voix pour cet moyen de musique, cette façon, ce genre de musique. Alors, et aussi pour m'exprimer, je trouve dans la colorature, dans les notes très vite, comme ça, placées, tac, 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 tac. Je trouve la possibilité de m'exprimer mieux. Et aussi dans Rossini, parce que Rossini a aussi pas mal de colorature et aussi des moments d'extension, de legato. Mais plus les langues de baroque et de Rossini que des langues de Donizetti, c'est une langue complètement différente pour moi. Aussi, si ça fait part du bel canto. Et alors, c'est comme les chefs d'orchestre. J'ai parlé une fois avec Kurt Mazur. Il m'a dit qu'il était plus doué à diriger certaines œuvres, certains compositeurs. On n'a pas tous les possibilités de faire tout.
Peut-être alors, pour le moment, parce que vous êtes très jeune. Peut-être plus tard, vous irez vous embrasser le répertoire
Merci.
De Mozart que vous fréquentez
Je vais le
peu
mettre
pour le moment.
Comme sonnerie de mon portable. Vous êtes jeune. C'est bien, c'est bien. Non, cette année, je fais...
Pourquoi vous sentez vieille ?
Non, pas du tout, mais c'est bien parce que j'ai 20 ans d'expérience de travail sur mes épaules. Alors, c'est bien de savoir que je suis encore jeune et j'ai encore la possibilité de me réinventer et de continuer à faire mon sentier parce que je l'adore tellement que j'aimerais bien avoir encore 20 ans devant comme 20 ans derrière.
Êtes-vous une femme ? Ou êtes-vous un homme ? Ou êtes-vous ni un homme ni une femme ?
Je suis tous les deux. Je suis tous les deux parce que en faisant les rôles en travesti sur scène, j'ai beaucoup appris comment je peux m'ouvrir comme femme, mais aussi embrasser les couleurs, les énergies de l'homme aussi en même temps. Je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise dans la vie en ayant appris cette différente réaction de l'homme qu'on peut faire sur scène, mais on peut aussi utiliser dans la vie normale.
Comment ?
Mais
être un homme sur scène, ça peut vous servir dans la vie
quotidienne. Oui, mais beaucoup,
parce
que moi, comme femme, en avant, j'étais très, très timide. J'avais pas... J'osais jamais répondre si quelqu'un me parlait avec un peu d'agression. Maintenant, il n'y a pas de question. Je reste sur place, je ne me bouge pas. Et ce n'est pas avec agressivité, mais avec une certaine confiance dans moi. Je réponds, je me défends, je dis non, j'existe, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être ici dans ce moment. Et ça, c'est de la liberté extrême pour moi. C'est magnifique aussi dans le métro aux États-Unis, ici même à Paris, quand on est coincé dans le genre, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être là, de me prendre mon espace. Dans plusieurs moments dans la journée, ça entre avec grande naturalesse maintenant. Et oh, c'est une joie, c'est vraiment... C'est incroyable. Quand j'étais petite...
Et ça, c'est la pratique du chant qui vous a autorisé
à
vous sentir légitime.
C'est le théâtre, oui, en chantant comme homme. Parce que quand on voit... Je me souviens, la première fois que j'ai appris ça, c'était avec John Copley, un grand, grand metteur en scène, dans Giulio Cesare. Et moi, j'ai chanté Sesto, qui est le jeune homme qui apprend à prendre sa place dans le monde. Non, il apprend à être homme. Et quand il voit la tête de son père coupée, portée devant César comme hommage, non ? Et moi, j'étais toujours reculée dans ce moment. Et John m'a dit, non, mais tu as aussi le droit de s'approcher, de t'approcher aux horreurs, aux terreurs, non ? De t'approcher, pas de seulement reculer. Et ça, c'était quelque chose pour moi complètement inconnu jusqu'à ce moment. Et maintenant, aussi dans la vie, j'ai le droit de m'approcher au problème, au danger.
Et vous aimez bien chanter sans qu'on reconnaisse votre sexe ?
Oui, oui, j'aime beaucoup parce que, surtout, je trouve, mais aussi dans Bel Canto, mais surtout dans le baroque, on a, et vous me devez assister avec le mot androgyne.
Androgynie.
Où, en première place, c'est l'émotion. Qui pour homme, pour femme, c'est 80% du temps, c'est la même chose. C'est la réaction qui peut être différente. Mais entendre cette émotion dans nous, je crois que c'est la même chose dans l'homme que dans la femme. Et alors c'est ça que je concentre maintenant. Je me concentre sur ça. Et puis l'autre 20%, c'est sur la réaction. Qu'est-ce que je peux faire alors pour trouver la solution. Pour la femme, c'est très, très différent dans les opéras. Les solutions sont beaucoup moins que pour les hommes. Les hommes ont des autres problèmes aussi. Ils ont des responsabilités différentes.
Vous voulez dire dans les livrets, mais aussi vocalement ?
Mais aussi dans le livret. Mais ça s'exprime dans la voix, après.
Comment ?
Parce que si j'ai responsabilité vers mon père, parce que moi je suis le prince, je dois être le roi après, je ne peux pas me perdre dans les émotions parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un et je dois me marier avec quelqu'un d'autre pour le politique. Et ça, ça avait couloré, ça avait changé le moyen que j'ai à chanter. Que je souffre parce que je suis seule, ou si je souffre devant mon père... ce sont deux situations complètement différentes. Si je souffre devant mon amoureuse, ce sont des situations complètement différentes qui vont changer le moyen de chanter.
Donc porter les rôles masculins et féminins de la même manière, ça vous apporte beaucoup de force, à la fois intellectuelle, et artistique
choix,
et peut-être psychique dans votre itinéraire de chanteuse, Vivica Génaud.
Oui, et aussi comme personne, moi, comme Vivica, j'ai beaucoup plus de choix dans la vie que j'ai appris dans le théâtre et que j'ai la liberté, la possibilité de porter au dehors du théâtre.
On va vous écouter dans Farinelli.
Ouh, bien.
Nous sommes en train d'entendre un extrait d'un concert qui a été enregistré, qu'on peut écouter sous forme de CD, Arias for Farinelli, sous la direction de René Jacobs, qui a été très important à l'intérieur de votre itinéraire, Vivica Génaud.
Oui, c'était René Jacobs, grâce à lui, que j'ai découvert la musique baroque, parce qu'aux États-Unis, on n'avait pas beaucoup de chance pour l'apprendre, pour la pratiquer. Et oui, c'était drôle parce que j'ai fait les premières 3 ans de ma carrière en chantant seulement Rossini. Et après ça, on m'a commencé à dire, mais il faudrait que tu fasses autre chose aussi, non?
C'était déjà une carrière dans votre tête?
Oui, quand j'ai commencé à 24 ans, c'était magnifique. Oui, oui, et puis la première saison, je faisais déjà les trois héroïnes de la comédie de Rossini. J'ai fait l'Italienne et l'Algérie, j'ai fait Rosine dans Barbiere et aussi Cendrillon. C'est parti très vite pour moi. Alors,
Trop vite?
Peut-être, parce que j'avais pas d'expérience avant que des musicales. J'ai dû apprendre tout en travaillant. Et alors, oui, j'étais très, très nerveuse pour les premiers 7 ans de ma carrière. Mais après les premiers 3 ans, je suis allée parler avec quelqu'un qui connaissait très bien le répertoire, je lui ai dit, c'était Matthew Epstein, qui après ça est devenu le directeur de Chicago Opera, et ça, il était très, très connu dans le métier. Il m'a dit, il faut que tu chantes Hasse. Et j'ai dit, ah, mais oui. C'est alors, quoi Hasse?
Voilà, on connaît très peu Hasse, et c'est oui. comme ça qu'on vous a découvert en France. Oui. Grâce à un opéra de Hasse, c'est la première fois qu'on vous a vu et qu'on ici vous a entendu ici oui. à Paris.
Et c'était même avec René Jacobs. Et c'était en audition avec René Jacobs qui m'a permis de découvrir le monde de Hasse, mais en même temps le
alors,
monde
qui
de
est Hasse
baroque. Qui est Hasse? Il était un des plus grands compositeurs de baroque de 1700. C'était lui, c'était Handel et c'était Haydn qui étaient les plus grands compositeurs de l'époque. Et Hasse, maintenant, je pense aussi pour la guerre, parce que tellement de choses ont été détruites à Dresde, parce qu'il a passé 30 années de sa vie à Dresde comme Kapellmeister, et il y a beaucoup d'œuvres qui ont été détruites après la guerre. Et alors, on a perdu un peu à la, les années 50, 1950, je pense. On a découvert plein des opéras de Handel, de Haydn, Mozart. On a commencé, mais Hasse est toujours resté un peu derrière. Et c'est maintenant qu'on commence à reprendre ses œuvres et les mettre devant le public parce qu'ils sont, surtout pour la voix, ils ne sont pas tellement compliqués dans l'harmonie comme ils seraient les opéras de Handel. Haydn est un peu plus simple encore, mais... Mais pour la voix, comme il a écrit pour la voix, c'est quelque chose de magique. Parce qu'il était chanteur lui-même quand il était petit. Et il était le mari de Faustina Bordoni, qui était une des trois plus fameuses chanteuses de l'époque. C'était Farinelli, Senesino et Faustina Bordoni. Et alors, pour moi, c'est un compositeur très, très important qui m'a porté à apprendre plein de choses dans le parcours.
On vous écoute dans Hasse.
Spare!
Manifestement, vous n'oubliez aucun de vos rôles, Vivica Génaud. Vous les connaissez tous par cœur. Comment ça se passe dans la mémoire ? Ah, vous l'avez chanté hier soir.
J'ai chanté hier soir, ça c'est... Oui, oui.
Oui, mais c'est combien de rôles avez-vous interprété, malgré votre jeune âge ?
Je ne sais pas sûr.
Des centaines ?
Mais... Non, 50, quelque chose comme 50, quelque chose, oui. C'est pas mal dans 20 ans, c'est pas mal.
Et 50. Alors, comment se conserve la mémoire dans le cerveau d'une cantatrice ? Est-ce que c'est le rôle ? Est-ce que c'est le personnage ? Est-ce que c'est les performances vocales ? Est-ce que c'est les accidents ?
Parce qu'en faisant l'opéra ou un concert même, je me crée un sentier que je suis chaque fois. Alors,
quand vous dites un sentier, c'est quoi ? C'est une manière de déambuler dans l'œuvre ?
Oui, oui. Alors, je me crée toute la situation autour de moi. Alors, on ne peut pas... C'était la Maria Callas qui a dit ça. Elle a dit pas pour la musique, mais pour la scénographie, pour les mouvements, non, sur scène. Elle a dit que si on écoute la musique, on ne peut pas se tromper avec les mouvements. Et pour moi, c'est la même chose avec la musique. Si on suit toujours les mêmes pas, on ne peut pas s'oublier de la musique. Parce qu'on a besoin de dire quelque chose. On a besoin de dire ça, avec cette note. Parce que c'est ça qui te sort dans ce moment-là. Alors, même si tu connais bien l'histoire, si tu l'as fait plusieurs fois, dans ce moment-là, tu es complètement dans le moment, dans l'émotion de personnage, et tu as besoin de t'exprimer avec cette note, avec ce mot.
Et l'expression scénique est de plus en plus importante dans le monde de l'opéra et les metteurs en scène prépondérants. Donc finalement, vous n'en avez pas si besoin que cela, parce que quand la musique vous habite, ouais, vous êtes en train de nous dire que le corps suit, que oui, c'est comme une expression naturelle.
Oui. Et quand je me trouve avec un metteur en scène qui a déjà décidé, ça nous arrive parfois quand on arrive dans des grands théâtres où les productions sont déjà faites et il faut suivre les pas des autres mezzo-soprans qui on a précédé.
Lors des reprises de rôle, oui.
Oui, oui. Alors, c'est à moi de trouver mon âme dans cette expression, dans cette production, de m'exprimer dans l'image d'un autre, parce que ce n'était pas moi qui a pu créer le rôle dans ce cas-là. Et au début, c'était très difficile parce que j'étais très coincée dans mes images du rôle. Mais maintenant, je trouve que ça m'ouvre encore plus les personnages parce que parfois, très souvent, les metteurs en scène et même les chefs d'orchestre ont des images de personnages qui sont complètement différents de miennes. Et alors, ça me donne la défiance comment dit-on, le challenge.
La compétition.
Oui, de trouver moi-même dans ces images.
Mais vous pouvez très bien donner aussi votre interprétation du rôle au metteur en scène. J'imagine que ça peut exister.
Mais quand on fait les reprises, c'est pas possible.
Ça n'est pas possible.
Non, parce qu'on travaille pas toujours avec le régisseur même. On travaille avec un assistant. Je me souviens bien, à Berlin, ils ont la production de Barbieri di Siviglia, qui est faite par Ruth Hausmann. Et elle est morte. Et on travaille avec son assistant, parce que la production a 2 ans plus de moi. Alors, chaque fois qu'on fait le spectacle, on entend dans le théâtre, ça c'est le 900e répétition de... Alors, c'est pas possible, il faut prendre confiance dans l'assistant. Et en même temps, l'assistant n'a pas toujours les réponses. Quand je dis pourquoi je dois tenir les bras comme ça et faire bouger les doigts quand je chante avec le ténor, il ne savait pas. Alors, c'est moi que je dois trouver la raison pour le faire. Parce que sinon, c'est arrivé que j'ai oublié de le faire une fois dans le spectacle. Et j'ai pensé, bon, ok, j'ai oublié. Il y avait quelqu'un de l'orchestre qui m'est venu voir après le spectacle. Il m'a dit, Madame Genot, vous avez chanté merveilleusement, mais j'ai manqué quand vous n'avez pas fait le mouvement avec le bras et le doigt.
Bon, okay. Est-ce que c'est très important?
C'était important pour eux, mais j'avais quelqu'un qui me pouvait expliquer pourquoi. Alors finalement, ça m'arrivait à faire un interview à Berlin et le journaliste m'a dit, mais je trouve qu'il avait vu le première il y a 50 ans. Et il a dit, je trouve que c'était vous qui a mieux, c'était plus proche au premier interprète. Et j'ai dit, ok, bon, maintenant on fait l'interview et après, ce sera vous à m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette production. Parce que personne ne m'avait pu expliquer ça. Et alors après,
peut-être vous allez devenir vous-même metteur en scène.
C'était Berghaus, pas Haussmann. C'était Berghaus, Ruth Berghaus.
Vous n'êtes pas séduite par l'idée d'un jour de basculer dans la mise en scène d'opéra, Vivica Génaud?
Oui, peut-être. Oui, j'ai déjà commencé avec les jeunes. Je fais des masterclass en faisant un peu de scène aussi, parce que c'est quelque chose qui manque chez nous aux États-Unis, la connaissance de scène. Et c'est ça, la technique de se bouger sur scène. Ça, j'ai appris de John Copley et aussi de Michael Hampe, était beaucoup d'aide dans ça parce qu'il m'a donné une technique de scène que je pouvais utiliser dans toutes les années.
Alors maintenant, on vous voit sur les scènes internationales. Vous n'avez pas peur que cette vocation qui est devenue un métier et qui est devenue maintenant une consécration va vous emmener peut-être dans une vie très artificielle où vous serez peut-être moins à la recherche de vos propres voix?
Oui, je suis arrivée là parce que j'avais dit qu'au début, j'ai chanté pour mes profs, j'ai chanté pour le chef d'orchestre, j'ai chanté toujours pour quelqu'un d'autre. Et maintenant, je me trouve dans le luxe de pouvoir décider moi-même ce que je veux donner avec la voix et avec le corps. Et oui, c'est plus une entreprise à moi maintenant.
Ben merci, Vivica Génaud. Ben
merci.
J'espère
vous.
Que vous resterez un peu à Paris où on pourra vous réécouter.
Ah, j'espère. Aujourd'hui, non, mais ça arrivera.
Alors on peut écouter plusieurs disques, plusieurs CD de vous, Vivica Génaud, Arias for Farinelli sous la direction de René Jacoz, Bajazé de Vivaldi avec Europa Galante Fabio Biondi, Pyrotechnics Vivaldi Opéra Arias avec Europa Galante. Et puis on vous écoutera sur France Musique toute la journée. Donc vous pourrez parler aussi du jazz dans une de mes émissions préférées sur France Musique.
Oui.
Ça sera le 11 avril.
Oui.
Merci, Vivica Génaud.
Merci à vous, merci.
Olivier Dupré, Didier Lagarde, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, Brigitte Bouvier, toute l'équipe de Hors-Champ vous souhaite une bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. Dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.